Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
cas de coronavirus en RDC et 3 décès. Le président de la République a décrété l'état d'urgence vu la gravité de la situation. C'est après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement suivant la Constitution. Dans ce journal, l'explication de l'état d'urgence par un constitutionnaliste. Et puis, la hausse des prix observée actuellement à travers le pays n'a pas sa raison d'être. Déclaration du vice-ministre de l'économie, Didier Lutundula Okito, appelle donc les commerçants à revenir au prix initial de la vente, notamment des produits de première nécessité, vous l'entendrez. Madame, Messieurs, bonjour. Vous le savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi a décrété mardi l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République. Cela au regard de la gravité et le caractère dangereux de la pandémie du coronavirus. Pour ce faire, les libertés de circulation et de mouvement garanties par la Constitution sont restreintes pour 30 jours afin de faire face à la pandémie qui menace toute la population congolaise et provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Le président de la République a annoncé cette décision après concertation lundi avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, conformément à l'article 85 de la Constitution. C'est comme l'explique Michel Kifindangoy.
Conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat devraient se réunir à l'ordre plein droit pour voter la loi sur la mise en application de cet état d'urgence. Cela devrait se faire sans exposer les parlementaires à la contamination au coronavirus. Durant cette période de 30 jours d'état d'urgence, le chef de l'État agira avec des pouvoirs excessifs en utilisant la police ou l'armée pour faire face à la pandémie au coronavirus. Cela impliquera notamment la privation des libertés publiques, comme l'a annoncé le chef de l'État dans son message hier mardi à la Nation. Si la situation de cette pandémie exige le maintien des dispositions de l'état d'urgence après les 30 jours, le chef de l'État devra de nouveau saisir le Parlement afin d'autoriser une prorogation pour des périodes successives de 15 jours. En vertu de l'article 145 de la Constitution, Félix Tshisekedi prendra des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie. Toutes ces mesures ne suivront pas la procédure normale. Elles seront prises et exécutées en mode d'urgence. Les ordonnances du chef de l'État devront, dès leur signature, être soumises à la Cour constitutionnelle qui, tout à fait cessante, déclarera si elles dérogent ou non à la Constitution.
Pendant ce temps, le député Gratien Irachan de l'opposition demande au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de convoquer en toute urgence une plénière en vertu de l'article 144 de la Constitution afin de voter la loi portant modalités d'application de l'état d'urgence. Dans une déclaration à la presse, l'élu de Bounia estime qu'il est possible de réunir les parlementaires dans la salle de congrès en respectant la distance d'un mètre et sans les exposer à la contamination au coronavirus. Gratien Irachan explique au micro de Michel Kifindangoy.
Eh bien, nous reconnaissons que suivant ses prérogatives, le président, il a déclaré l'état d'urgence, c'est tout à fait normal, selon l'article 85 de notre constitution. Les modalités d'application de cet état d'urgence doivent être déterminées par une loi. Et comme c'est un état d'urgence, il y a une urgence effectivement à ce qu'on puisse se réunir. Et là, nous sommes dans notre article 144 de notre constitution en vigueur. Donc, bien sûr, il y a eu un communiqué où les bureaux des deux chambres ont demandé à ce que les députés restent pour le moment à la maison. Mais il se pose une urgence. Nous avons besoin d'assumer notre responsabilité en tant qu'élus du peuple et nous devons respecter aussi la loi. Et quand nous voyons les installations de l'Assemblée nationale, c'est une grande salle. On peut respecter la mesure de 1 mètre et facilement nous pouvons contenir l'Assemblée nationale et le Sénat dans cette salle-là. C'est faisable.
Contacté à ce sujet, le rapporteur de l'Assemblée nationale a promis de réagir dès que le bureau statue sur la question. Entre-temps, nous apprenons la fin de la quarantaine depuis mardi des contacts du premier cas confirmé de coronavirus à Kinshasa. Bien qu'elle respecte cette décision, ces personnes se plaignent des conditions de cet isolement. D'après elles, les autorités n'ont rien respecté de tout ce qu'elles ont promis. Aucun kit durant les 14 jours, ni des documents attestant qu'elles étaient soumises à la quarantaine. Gerli Bukolo, procureur général après la cour d'appel de Tanganyika à Kalemi et l'un de ses contacts qui ont été mis en quarantaine, il s'exprime au micro de Blaise Shindani.
D'abord, aucun médecin n'est passé. Ce sont des agents de la commune de Bondal, les agents de santé, qui passent prélever les températures. Ici, on n'a jamais constaté quoi que ce soit pendant les 14 jours. Et ils n'ont rien dit. J'ai dû appeler un médecin qui m'a dit qu'il allait rappeler. Il n'a pas rappelé jusqu'à 7 heures, donc on n'a rien dit. Bon, la fin de la quarantaine, c'est-à-dire qu'on reprend normalement les activités, parce que depuis la quarantaine, on n'est jamais monté sur une moto, prendre un autre véhicule automoteur, on est là. Donc, ils n'ont jamais rien fait, pas de kit, rien du tout, donc voilà.
Maintenant que vous devez reprendre le travail, il vous faut un document attestant que vous étiez bloqué à la quarantaine.
En principe, mais je crois que c'est trop brouillon, hein. Ce sont des choses qu'ils n'avaient pas prévues. En fait, ceux qui ont décidé la quarantaine, ils n'avaient pas prévu. C'est maintenant qu'ils sont en train de réfléchir sur la sortie. Donc, on voit que c'est en tout cas très brouillon. On tâtonne, hein, on tâtonne.
Sachez que la RDC totalise actuellement 51 cas confirmés de COVID-19. Les trois nouvelles contaminations ont été rapportées dans la journée d'hier. Au total, le pays a enregistré 3 décès. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, chef de la riposte contre le coronavirus, l'a annoncé hier dans la soirée et indique que tous les autres malades recensés sont pris en charge. Et puis, le droit à la vie fait partie des droits de l'homme et il faut le défendre. C'est en ces termes que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, appelle toutes ses coordinations provinciales à relayer les messages du chef de l'État sur le COVID-19 et à sensibiliser toutes les couches sociales de la RDC sur le danger de cette pandémie. Appel lancé hier à Kinshasa au cours d'un point de presse tenu par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonkwe, au micro de Paul Matendo.
Comme vous le savez, le droit à la santé, c'est un droit qui est protégé dans beaucoup d'instruments juridiques, internationaux, régionaux et nationaux. Donc, laisser la sensibilisation seulement aux administratifs, c'est contribuer à la violation du droit à la santé. Raison pour laquelle j'invite, cette invitation est une instruction formelle à tous les coordonnateurs de la CNDH d'utiliser les voies médiatiques, entre autres les radios communautaires, pour expliquer les bien fondés des mesures prises par les autorités hiérarchiques, c'est-à-dire par les chefs de l'État, par le ministre en charge de la santé, cette maladie, pour montrer à la population que c'est laisser faire, c'est violer le droit à la santé. Donc ils ont tout intérêt de respecter les instructions. Et ne pas les respecter, c'est contribuer à la violation du droit à la santé, ce qui ne sera pas une bonne chose.
Je vous le disais en titre, le vice-ministre de l'économie lance un appel aux opérateurs économiques et aux petits commerçants en particulier à revenir sur le prix initial de la vente, notamment des produits de première nécessité. Dans une interview à Radio Capi, Didier Lutundula Okito tient à rassurer la population que pour le moment, il n'y a pas rupture des stocks. Par ailleurs, le vice-ministre de l'économie annonce que les équipes des inspecteurs sont à pied d'œuvre pour réguler les prix après une descente effectuée sur terrain. Didier Lutundula Okito joint par Jean-Désiré Kanyama.
Je vais rassurer le peuple congolais que jusque-là, il n'y a pas rupture de stock au pays. Nous, en tant que ministère de l'économie, nous avons fait du tout auprès de différents opérateurs économiques. Nous nous sommes rendus compte que le niveau de stock peut amener le pays, voire la ville de Kinshasa, jusqu'au mois de mai. Par là, vous allez comprendre que la hausse des prix que nous observons sur le marché n'a pas la raison d'être. C'est une spéculation. Et une spéculation, c'est une faute qu'il faut corriger, qu'il faut sanctionner. Nos équipes que nous avons envoyées sur terrain pour un contrôle économique de réguler les prix, de bien sur le marché. Ils sont en train de travailler sur les rapports. Nous attendons les conclusions pour que nous puissions amener ces conclusions au Premier ministre qui est en train de chapeauter la commission qui travaille sur des résolutions. J'ose croire que les prix des biens de première nécessité vont rentrer stables.
Par ailleurs, au Nord Kivu, la mairie de Beni, à travers son service économique, a débuté mercredi la sensibilisation de tous les opérateurs économiques de cette ville. C'est en vue de faire baisser le prix de produits qui connaissent une flambée sur le marché. En effet, cette hausse des prix de produits, dont ceux de première nécessité, est consécutive à la décision de fermeture des frontières du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et le maire de Beni prévient, après cette campagne, les récalcitrants seront sanctionnés. Bonakawa, joint par Martial Papimukeba.
Certaines personnes, certains opérateurs économiques pensent qu'il y aura rareté de certains produits. Et cette spéculation spéculation-là qui provoque la hausse des prix. Comme mesure, j'ai déployé depuis ce matin les services de l'économie sur terrain pour qu'ils aillent sensibiliser les opérateurs économiques et leur faire comprendre que même dans les déclarations du président de la République, il est dit que les frontières sont fermées, mais par contre, les véhicules transportant les fret et les navires ainsi que les aéronefs transportant les fret, ils sont autorisés à partir du Congo ou bien à entrer au niveau du Congo. Ce qui voudrait dire, en principe, c'est lui qui voudrait faire de l'importation. Le problème ne se poserait pas. C'est le message que les agents du bureau de l'économie vont devoir amener sur le terrain. Et si nous trouvons que la récalcitrance continue, nous allons directement passer par les sanctions négatives.
Actualité internationale.
L'Afrique comptait jusqu'hier 2475 cas confirmés de coronavirus, soit une hausse de 20% en 24 heures. Le COVID-19 a déjà coûté la vie à 64 personnes sur le continent, selon l'agence technique Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. 46 pays sur 54 sont touchés, parmi lesquels l'Éthiopie. Ici, le gouvernement a amnistié et annoncé hier la libération prochaine de plus de 4000 prisonniers. C'est pour faire de la place dans des prisons surpeuplées et confrontées au risque de propagation du coronavirus. La ministre de la Justice a indiqué aux médias que la mesure concernait les prisonniers dont la plupart sont détenus pour des infractions mineures ou pour consommation de drogue et qui ont moins d'un an à purger avant la fin de leur peine. Entre-temps, au Zimbabwe, des milliers d'infirmiers ont entamé hier une grève pour protester contre le manque d'équipement pour lutter contre le coronavirus dans leur pays. Au système de santé en déliquescence, a annoncé leur syndicat. Le Zimbabwe a jusqu'à présent confirmé 3 cas de COVID-19. L'un des patients, âgé de 30 ans, est décédé. Nous prenons soin de beaucoup de personnes, certaines pouvant être infectées. Le risque de contracter la maladie est donc très élevé, a expliqué à l'AFP le président de l'Association des infirmiers du Zimbabwe.
L'invité.
L'état d'urgence décrété par le président de la République est conforme à la Constitution et répond à une menace sécuritaire mondiale et nationale, le coronavirus. Cet état d'urgence est sanitaire puisque pris dans un contexte sanitaire précis. Ces explications sont du constitutionnaliste Célestin Ikoto, notre invité ce matin. Il est professeur des droits constitutionnels à l'Université de Kinshasa. Célestin Ikoto explique l'état d'urgence et sa conséquence juridique dans cet entretien avec Jeff Ngoy.
Professeur Célestin Ikoto, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dieu.
Professeur, le chef de l'État vient de décréter un état d'urgence. La toute première question, qu'est-ce qu'on entend par un état d'urgence?
Merci beaucoup, Jeff. Il faudrait dire que le chef de l'État a agi conformément à la Constitution, notamment l'article 85, qui dit ceci. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Après concertation avec le premier ministre et les présidents des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution, il en informe la nation par un message. Donc, qu'est-ce que ça dit l'état d'urgence? L'état d'urgence, ce sont des mesures que le chef de l'État prend lorsqu'il y a une menace de la sécurité de la nation. Étant donné que le coronavirus menace le monde parce que la sécurité est menacée, mais il y a une conséquence juridique par rapport au message du chef de l'État.
Quelle est cette conséquence?
La conséquence juridique que à travers ce message, le président peut restreindre les libertés individuelles des personnes. Par exemple, le cas qu'il a dit, pas de circulation. Liberté de circulation, liberté de mouvement, c'est constitutionnel. Mais dans ce message, il y a une conséquence juridique, c'est que le président restreint les libertés individuelles des paisibles citoyens parce qu'il y a une menace de coronavirus.
Et comment s'exerce le pouvoir pendant cette période?
Pendant cette période, le président étant donné que le Parlement est presque en vacances, il peut échanger avec le Premier ministre ou ce que dit la Constitution, il peut échanger avec le Premier ministre ou avec le président des deux chambres pour certaines décisions qu'il pourra prendre. Mais lorsque le Parlement reprend, le président en informe les restes des députés nationaux et sénateurs.
Mais quelles sont les conditions d'application des dispositions de la Constitution, particulièrement aux articles 85, 144 et 145, puisque là on dit il faut que le Parlement se réunisse, il y a une loi qui doit aller à la Cour constitutionnelle, qui doit la déclarer conforme
oui,
à la Constitution.
Oui, mais nous ne sommes pas dans un fonctionnement régulier des institutions. Maintenant, il y a une menace de coronavirus, parce que c'est une épidémie mondiale. La sécurité mondiale est menacée. Le président peut, à la limite, il peut consulter le Premier ministre et le président des deux chambres. Mais il n'est pas obligé, parce qu'il y a une sécurité. Le président peut aller outre, selon l'esprit de la Constitution. Il peut aller outre la vie du Premier ministre ou des deux chambres. Non. Mais pour des questions qui menacent questions qui menacent le Congo, le corona, c'est une menace mondiale. Donc le président avait tout à fait raison de décréter l'état d'urgence pour sauver les vies humaines.
Et cela à quelle durée?
La Constitution ne détermine pas la durée. Ça dépend de la durée d'une case ou dans des cas d'espèce. Ça dépend de la durée où la maladie ou les experts nous diront non. À telle date, il y a diminution des contaminations et le fonctionnement régulier des institutions peut reprendre. Donc la durée n'est pas fixée par la Constitution. Tout dépendra de l'évolution. Comment la pandémie évolue au niveau mondial et au niveau du Congo.
Mais en lisant la Constitution, on fixe un délai de 30 jours et à tout moment, le Parlement peut mettre fin à un état d'urgence.
La discussion doit rester permise. Pourquoi j'ai dit qu'il faudra observer l'évolution de la pandémie? Nous ne pouvons pas dire en ce moment-là, parce que n'étant pas médecin, n'étant pas expert dans le domaine médical, je mets des réserves parce que nous ne savons pas combien de temps cette pandémie prendra. Donc le président sera obligé de garder un dialogue permanent avec les présidents des deux chambres et les premiers ministres pour voir comment évolue le virus.
Professeur, quelle différence on fait entre un état d'urgence sanitaire et un état d'urgence tout court?
Mais nous sommes dans un état, vous avez dit, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire parce que la sécurité sanitaire mondiale est menacée. Et le président l'a dit dans son discours à la nation parce que c'est constitutionnel. Donc le président avait raison de décréter un état d'urgence, mais dans un domaine précis sanitaire.
Donc ses pouvoirs ne sont pas plus larges, ils sont un peu réduits.
Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, restons dans un domaine sanitaire. Raison pour laquelle il a créé un secrétariat technique qui s'occupe de cet aspect-là, le groupe du prof Dr Mouyembe et les autres pour lui faire rapport, parce que lui aussi, il doit se fier au rapport des experts. Mettons en cause les querelles politiques qui ne se terminent pas, sauvons les vies humaines, sauvons le monde, sauvons les Congos. C'est très important.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean.
Le constitutionnaliste Célestin Ekoto répondait aux questions de Jeff Ngoy. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.